Le plaideur conduit l'enquête.
Le cabinet de travail de Mgr d'Artois était décoré de quatre grandes fresques pieuses, assez platement peintes, où l'ocre et le bleu dominaient, quatre figures de saints pour inspirer confiance, disait le maître du lieu. À droite, Saint-Georges terrassait le dragon. En face, Saint-Maurice, autre patron des chevaliers, se dressait en cuirasse et côte azurée. Sur le mur du fond, Saint-Pierre tirait de la mer ses inépuisables filets. Sainte Madeleine, patronne des pécheresses, vêtue seulement de ses cheveux d'or, occupait la dernière paroi. C'était surtout vers ce mur-là que Mgr Robert aimait à porter les yeux. Les poutres du plafond étaient pareillement peintes d'ocre, de jaune et de bleu, avec de place en place les blasons d'Artois, de Beaumont et de Valois. Des tables couvertes de brocarts, des coffres où traînaient des armes somptueuses et de lourdes torchères de fer doré meublaient la pièce. Robert se leva de son grand siège et rendit au notaire les minutes des dépositions qu'il venait de parcourir. « Fort bien, fort bonne pièce, » déclara-t-il. « Surtout le dire du sire de Machaut, qui paraît très spontané et complète tout à propos celui du comte de Bouville. Décidément, vous êtes habile homme, maître Tesson de la chicane, et je ne regrette point de vous avoir élevé là où vous êtes. Sous votre face de carême jeûné, il se cache plus d'astuces que dans la tête creuse de bien des maîtres du Parlement. Il faut reconnaître que Dieu vous a doté d'assez de place pour loger votre cervelle. » Le notaire eut un sourire obséquieux et inclina son crâne démesuré, coiffé du bonnet qui ressemblait à un énorme chou noir. Les compliments moqueurs de Mgr d'Artois dissimulaient peut-être quelques promesses d'avancement. « Est-ce là toute la récolte? Avez-vous d'autres nouvelles à me donner pour ce jour ?» ajouta Robert. « Où en sommes-nous avec l'ancien bailli de Béthune ?» La procédure est une passion comme le jeu. Robert d'Artois ne vivait plus que pour son procès, ne pensait, n'agissait qu'en fonction de sa cause. Cette quinzaine-là, la seule affaire de son existence était de se procurer des témoignages. Son esprit y travaillait de l'aube au soir, et même la nuit, il se réveillait, tiré du rêve par une inspiration soudaine, pour sonner son valet Lormet, qui arrivait tout somnolent et rechignant, et lui demander « Vieux ronfleur !» Ne m'as-tu pas parlé l'autre jour d'un certain Simon Dourin ou Dourier, qui fut clair de plume chez mon grand-père? Sais-tu si l'homme vit toujours? Tâche demain à t'en enquérir. » À la messe, qu'il entendait chaque jour par convenance, il se surprenait à prier Dieu pour le succès de son procès. De la prière, il revenait tout naturellement à ses machinations et se disait pendant l'évangile « Mais ce Gilles Flamand qui fut autrefois écuyer de Mao, et qu'elle a chassé pour quelques méfaits. Voilà un homme peut-être qui pourrait témoigner pour moi, il ne faut pas que j'oublie cela. » On ne l'avait jamais vu plus assidu aux travaux du conseil. Il passait chaque jour plusieurs heures au palais et donnait l'impression de s'employer ferme aux tâches du royaume. Mais c'était seulement pour garder prise sur son beau-frère Philippe VI, se rendre indispensable et veiller à ce qu'on ne nommât aux emplois que des gens de son choix. Il suivait de fort près les arrêts de justice afin d'y puiser l'idée de quelques manœuvres. De tout le reste, il se moquait. Qu'en Italie, guelfes et gibelins continuassent à s'entre-déchirer, Cazzovisconti ait fait assassiner son oncle Marco et barricader la ville de Milan contre les troupes de l'empereur Louis de Bavière, tandis qu'en revanche Vérone, Vicence et Padoue, Trévise, se soustrayaient à l'autorité du pape protégé par la France, Mgr d'Artois le savait, l'entendait, mais n'y songeait qu'à peine. Qu'en Angleterre, le parti de la reine se trouva en difficulté et que l'impopularité de Roger Mortimer devint chaque jour plus grande, Mgr d'Artois haussait les épaules. L'Angleterre, ces jours-là, ne l'intéressait pas, non plus que les laigniers de Flandre qui, pour les avantages de leur commerce, multipliaient les ententes avec les compagnies anglaises. Mais que maître Andrieux de Florence, chanoine trésorier de Bourges, fût pourvu d'un nouveau bénéfice ecclésiastique, ou que le chevalier de Villebrême passa à la chambre aux deniers, ah, voilà qui était chose importante, et qui ne pouvait supporter sursis. C'est que maître Andrieux, avec le sire de Villebrême, était des huit commissaires nommés pour instruire le procès d'Artois. Ces commissaires, Robert les avait désignés à Philippe VI et pratiquement choisis. « Si l'on prenait Bouchard de Montmorency, il nous a toujours loyalement servi. Si l'on prenait Pierre de Cunières, voilà un homme avisé que chacun s'accorde à respecter. De même pour les notaires, dont ce Pierre Tesson, depuis 20 ans attaché d'abord à l'hôtel de Valois, puis à la maison de Robert. Jamais Pierre Tesson ne s'était senti si important. Jamais il n'avait été traité avec tant de familière amitié, comblé d'autant de pièces d'étoffe pour les robes de son épouse et de petits sacs d'or pour lui-même. Néanmoins, il était fatigué, parce que Robert harcelait son monde et que la vitalité de cet homme était tout bonnement épuisante.